Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans l'émission où vous avez la parole. Pour intervenir en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez nous envoyer des messages sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui, dans le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, pendant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Jared Kushner, conseiller et gendre du président américain et les quelques 800 invités inaugurés en grande pompe la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem, le feu s'abattait sur la bande de Gaza où la répression des manifestations par l'armée israélienne a causé la mort de plus de 59 Palestiniens plutôt et blessé environ 2000 autres. La France, qui a condamné cette violence, appelle à la retenue, estime que l'ouverture de cette représentation diplomatique dans la ville sainte est en violation du droit international. Alors que pensez-vous de cette situation? Puis comment expliquer que Donald Trump, à l'inverse de ses prédécesseurs, ait pris cette décision? Pour en parler, pour répondre à vos questions, nous serons par téléphone avec Bertrand Herlbon. Il est président de l'association France-Palestine Solidarité. Je rappelle le numéro pour intervenir, 00 33 55 07 58 00. Avant de prendre vos commentaires en direct, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour JDA, j'appelle aujourd'hui pour m'indigner contre cette abomination qu'a commis le maire de Gorée, Augustin Senghor. J'aimerais bien qu'Augustin dise à tous les Sénégalais, à tout le peuple africain, quoi il a perçu, combien les Européens lui ont payé, qu'il accepte de baptiser cette place à Gorée de l'Europe. Il oublie que c'est là que tous les tirailleurs sénégalais sont partis, des tirailleurs africains. Il oublie que c'est notre histoire, ça c'est pas l'histoire de l'Europe. Ils auraient pu baptiser cette place, place des tirailleurs africains, ou place de l'Afrique, pour trouver un nom de pays africain. Pour donner à cette place, ma place de l'Europe, ça, c'est pas être intelligent, ça. Au revoir.
Monsieur Hartmann, bonjour. Si l'opposition veut battre M. Kabila, elle doit s'unir. Et l'union doit se faire autour de M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi représente le cheval gagnant. Et la candidature de Moïse Katumbi doit être un préalable à sa participation à l'élection. En même temps, je profite de l'occasion pour demander à M. Moïse Katumbi de rentrer au Congo pour aller se battre aux côtés du peuple. Moïse Katumbi, il faut abandonner Mouette et Chadon pour aller lutter avec le bas peuple. Parce qu'aujourd'hui, qu'attendons-nous? C'est les propres de Gaulle qui détruisent les oppositions en Afrique. Donc, vivement, j'ai demandé un sacré autour de M. Moïse Katumbi. Idriss, bonne journée.
Oui, bonjour, ami Judéa. C'est M. Diarra, Marc Diarra Monjon à l'appareil. Et j'ai ce message pour un appel à tout le peuple malien, à tous les patriotes, à tous les hommes honnêtes et sérieux, que le candidat Ismaïla Cissé fait la honte de la démocratie, fait la honte vis-à-vis au peuple malien. Pendant son meeting au stade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté les gens, la conscience des gens, hein, le malheur du peuple. Et ils se profitent de ça, de donner 5 000 euros, 10 000 euros aux gens pour qu'ils aillent au stade, pour remplir le stade. C'est la honte. C'est la pure honte. Quelqu'un qui commence à chercher le pouvoir en payant vraiment l'honnêteté des gens, à profiter de la pauvreté des gens, vraiment, vous faites la honte.
Oui, bonjour amis auditeurs du JDA. Vraiment, le monde est injuste. Actuellement, les Palestiniens sont en train de se faire massacrer pour leur territoire, pour leur terre. Ils sont en train de défendre leur patrie. Et on les tue comme des mouches. Et personne ne peut intervenir. C'est-à-dire que les Palestiniens ont le même sort que les Africains. On les tue et les gens sont en train de manger, ils sont en bois, ils dansent. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais pourquoi vous êtes injuste comme ça? Pourquoi vous êtes injuste? Même si un juif trébuche tout de suite là, le monde est alerté. Comment vous voulez que les gens ne soient pas toujours en train de s'éclater, de lancer des bombes partout? Si le monde est injuste comme ça, vous quittez votre pays et puis vous venez vous installer dans le cœur des gens. Mais c'est les nargués. Et comment ils ne peuvent pas se défendre? Et le monde entier regarde. C'est normal. Les juifs sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand c'est les autres, il n'y a pas de problème. On les tue. Merci.
Prenez la parole dans le GTA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages et un grand merci à Mangé Pofou qui les a sélectionnés. On l'a remercié aujourd'hui dans le journal des auditeurs, le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. On en parle tout de suite avec Bertrand Helbron. Il est président de l'association France-Palestine Solidarité. Monsieur Helbron, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. 70 ans après la création de l'État d'Israël, les États-Unis ont donc inauguré ce lundi leur nouvelle ambassade à Jérusalem. C'est une décision, Bertrand Helbron, qu'aucun de ses prédécesseurs de Donald Trump, pardon, avait prise. Ma première question sera celle-ci, Bertrand Helbron, comment expliquer que Donald Trump ait franchi le Rubicon dans l'ambassade des États-Unis à Jérusalem?
Écoutez, si quelqu'un arrive à connaître les mécanismes de décision de Donald Trump, bienvenue. Ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, il voulait faire plaisir à son électorat, notamment les chrétiens évangélistes d'extrême droite qui sont importants dans l'électorat et qui sont représentés par le vice-président Biden en particulier. Mm. Donc, j'ai l'impression que Donald Trump ne refuse rien à Israël aujourd'hui, qu'il s'aligne totalement sur les demandes de gouvernement d'extrême droite israélienne. Je crois que c'est la réalité et évidemment totalement contraire au droit international.
Alors justement, la journée a aussi été marquée par une répression sanglante, notamment dans la bande de Gaza, alors que les Palestiniens manifestent depuis le 8 mars pour le retour à leur terre. Le bilan est terrible, 59 morts, 770 blessés par balle. Israël met en avant la légitime défense. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce soir. Bertrand Helbron, une solution qui contre elle est-elle possible?
En tout cas, il faut essayer. En tout cas, il faut essayer, et ce n'est pas parce que les États-Unis ont un droit de veto et de sécurité qu'il ne faut pas tenter d'avoir une solution, parce que ça montre aussi à quel point les États dans le monde, hors des États-Unis, sont unanimes pour condamner ces procédés et ces crimes de la part de l'État d'Israël. Conseil de sécurité de soir, malheureusement, on imaginait que les États-Unis mettent le béton. Il montrera aussi à quel point la communauté internationale condamne l'attitude d'Israël. On a noté notamment que, qu'on ait eu des positions, mi-fig, mi-raisin, il faut que chacun prenne ses responsabilités, soit calme. Non, il s'agit de guerre. Et la position de la France, tard hier soir, je ne parle pas du comité d'après-midi, mais tard hier soir, la position du président de la République a été claire. C'est une condamnation de l'attitude de l'armée israélienne vis-à-vis des manifestants palestiniens.
On verra dans quelques instants les conséquences sur le processus de paix, c'est encore un de cette décision et de des violences. Restez à l'écoute, Bertrand Helbron. On se tourne vers le standard. Écoutez, les auditeurs, on commence avec Séverin, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, vous m'attendez bien?
Oui, on vous entend bien, Séverin. Alors si vous pouviez enlever votre kit malim, ce serait encore mieux, mais allez-y.
Voilà, 10 secondes, même pas, 5 secondes. Donc en fait, moi je voulais juste vous dire, Stéphanie, que franchement, cette nuit, je n'ai pas dormi parce que franchement, j'avais mal au cœur, Stéphanie. Écoutez, moi, de par ma région, je suis même... Allô?
Oui, on vous écoute, vas-y, voilà. Allez.
Okay, de par ma région, je suis plus proche, n'est-ce pas, des juifs que des musulmans. Mais ça, il ne s'agit pas d'illusion, là. Il s'agit d'êtres humains. Qu'on tue de façon délibérée, comme ça, et des enfants, des femmes, qu'on tue comme ça. Alors, comme je disais tout à l'heure à vos collègues au standard, j'ai dit, on ne peut pas rester comme ça infiniment. Il faut trouver une solution. Et moi, je vois. Si on met une ambassade, je ne dis pas des États-Unis, une ambassade à Jérusalem-Est, mais pourquoi pas mettre, n'est-ce pas, un consulat, ou je ne sais quoi, à l'Ouest, pour calmer tout le monde. L'autre à l'Est, l'autre à l'Ouest, pour calmer tout le monde. Parce que comme ça ne peut qu'avenimer notre...
Donc la Palestine est une représentante aussi à Jérusalem, vous dites, finalement.
Exactement, madame.
D'accord.
Exactement, madame. Oh. Ici, moi, ici, on voit des couloirs ici en France dans le 7e, et il y a des représentations ivoiriennes qui sont à Lyon. Voilà, ça peut marcher comme ça. Et tout à l'heure, votre invité disait que... qui est-ce que... non, ce soir, le Conseil de sécurité s'est réuni. Mais qui a fait la demande de qui? Qui a compris cette réunion?
Bonne question, c'est vrai, à demander Bertrand Helbron. C'est l'ONU qui s'est autosaisie, j'imagine, monsieur Helbron? Pour la discussion.
En général, le Conseil de sécurité, c'est un de ses membres. Hein, demande la réunion et je crois que cette fois-ci, ça a été le Koweït qui doit être membre en ce moment du Conseil de sécurité. Je veux dire à Sévin qu'on est beaucoup à avoir à très mal dormir en ce moment. Et je partage totalement son analyse sur la négation de l'humanité. C'est vraiment ce qui apparaît en tout premier lieu quand on voit, par exemple, la manière dont les soldats israéliens tirent à travers leurs viseurs sur des Palestiniens armés, comme ils tiraient dans un champ de foire. Mais c'est absolument abominable. C'est un crime de guerre, de toute façon. Il va falloir que les décideurs payent ça devant la justice. Mais en attendant, il faut l'urgence. Si vous voulez, l'urgence, c'est d'arrêter le bras des assassins, c'est prononcer les sanctions, c'est de condamner de manière la plus solennelle. Il faut arrêter ça. Ça, c'est la première chose. Après, je voulais vous répondre ce qui concerne... Alors, il faut arrêter ça, et pour ce qui concerne les Gazaouis, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le droit et sur ce qu'ils réclament.
Bien sûr.
En ce qui concerne l'ambassade, si vous voulez, les choses ne se résolvent pas comme ça d'un coup de baguette magique en mettant une ambassade ailleurs. Un jour, si on arrive à la paix, Jérusalem sera la capitale et d'Israël et de la Palestine et... tout Jérusalem Est sera palestinien et il y a coopération entre les deux États, etc. À venir, on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est l'acceptation du fait accompli. Et c'est ça qui est totalement insupportable. C'est d'abord la négation du droit parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui en août 1980, devant les unilatéraux d'Israël, on en a marre du fait accompli. On demande à tous les pays de retirer leurs ambassades qu'ils en ont à Jérusalem. Et tous l'ont fait. Parce qu'on ne peut pas accepter ce fait accompli. Ce que dit Israël, c'est un, ils annexent Jérusalem, ils colonisent, et ils disent tout ça c'est à nous, tout ça c'est notre capitale, il n'y aura jamais d'État palestinien, il n'y aura jamais Jérusalem comme capitale de la Palestine. D'ailleurs, tout est fait pour étrangler la population palestinienne de Jérusalem-Est. Et donc, tout ça qui est refusé. Hein. Donc, c'est malheureusement pas en installant une ambassade ailleurs. Non, il faut arriver à sortir d'abord du fait accompli. Et ensuite, bien sûr, il faudra des gestes pour nourrir la paix.
Telle écoute, Bertrand Herlbrand, merci beaucoup. On va écouter un autre auditeur. Les auditeurs sont nombreux à vouloir intervenir sur cette question. On écoute Yann. Yann, Alex, bonjour.
Oui, bonjour Fanny. Bon, écoutez, je voudrais m'incliner devant les dépouilles, les victimes de cette barbarie qui inhumaine, voilà, qui ne dit pas de son nom. J'aimerais aussi vraiment soutenir les Palestiniens. Et puis voilà, je veux dire, Israël n'est pas sa première action humaine face au peuple gazaoui ou palestinien. Bon, en même temps, les résolutions de l'ONU ne changeront parce qu'Israël fait ce qu'il veut, et Israël a le droit de faire ce qu'il veut, et personne n'a le droit de contester ce qu'Israël fait. Donc bon.
C'est une impunité, dites Yann, c'est
voilà,
ça.
C'est une impunité. Donc du coup, moi je pense que je suis quand même assez dessus, étant en France, de la réaction des diplomaties européennes, françaises et européennes, qui est prête à réagir de manière virulente quand il y a des pays faibles comme les pays africains sur les droits de l'homme et la démocratie. Il y a un exemple concret qui est devant nous. Ils ne font que condamner. Frédérica Mogherini ne fait que condamner, enfin, dit à Israël la disproportion de, je sais pas,
un appel à la retenue
à la retenue. Voilà. Vous croyez que elle, c'est la diplomatie européenne, c'est vraiment discrédité cette action. Elle a montré sa vraie valeur aux yeux du monde. Elle ne pèse même pas le poids d'une plume d'oiseau. Voilà, il faut simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir le peuple israélien et palestinien dans sa lutte. Et puis il faut mener des actions civiles qui ça peut être des actions économiques, ça peut être des actions vraiment, surtout économiques, pour empêcher que cette barbarie-là continue. Puis vraiment, c'est honte à ce peu. C'est vraiment honte.
Je sais pas si on passe aussi le peuple israélien à la politique israélienne. Merci. Yann Alex, Bertrand Herlbrand, je reviens vers vous aussi pour une réaction. pour la discussion. On évoquait tout à l'heure le fait que Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU. Le pays continue sa colonisation illégale. De son côté, le Hamas aussi appelle au retour. Est-ce que finalement la solution de deux États ne s'éloigne-t-elle pas un peu plus chaque jour?
Est-ce que je réponds à Brian deux secondes?
Allez-y.
D'abord, partage sa colère et que l'impunité n'est jamais une bonne chose. D'abord, ça discrédite les institutions internationales qu'on a mises en place au lendemain de la catastrophe constituée la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, bien sûr, il faut lutter contre cette impunité. Il faut le faire en tant que citoyen. Par exemple, les actions BDS que vous évoquez à nouveau.
Oui.
Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher non plus nos demandes vis-à-vis du gouvernement et du chef de l'État. Je vous donnerai comme exemple que hier après-midi, on a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui était totalement terrible par son soi-disant équilibre, alors qu'il y a quand même un agressé, des criminels qui tirent sur des gens désarmés. Et par contre, tard nuit hier soir, a communiqué la présidence de la République qui condamne clairement la position israélienne, l'action de l'armée israélienne vis-à-vis des manifestants. Alors je reviens à votre question sur la solution à deux États. Soyons modestes, ce n'est pas nous qui avons décidé. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas abandonner comme ça les bases du droit. Les bases du droit international, c'est que les colonies sont totalement illégales et que l'ensemble de Jérusalem-Est doit aller à un futur État palestinien. Maintenant, comment les choses peuvent s'organiser si on commence à aller à la paix? Il y a plein de possibilités, mais faut-il qu'il y ait des deux côtés, donc du côté israélien, une volonté d'aller vers la paix. De reconnaître l'autre, c'est la première chose. Vous savez, on est aujourd'hui aux 70 ans de la Nakba. La grande catastrophe à laquelle les Palestiniens ont été expulsés de leur propre pays.
C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui l'anniversaire. Ça a duré toute l'année 1948, d'abord par les milices sionistes, puis par l'armée israélienne qui a pris leur chemin. C'est quelque chose d'épouvantable et c'est quelque chose que Israël nie. Et tant que Israël va nier la réalité du peuple palestinien, son humanité et le tort qu'il y a été fait par la Nakba, aucune paix ne sera possible. Il y a aussi ça, c'est la reconnaissance de l'autre. Et puis enfin, il y a une revendication qui, de toute façon, est en train de monter à l'époque où nous sommes. C'est l'apartheid et la revendication de l'égalité entre les personnes. Le jeune Palestinien qui est derrière son smartphone, son ordinateur, en train de discuter sur Facebook avec le monde entier, et qui est enfermé à Gaza, qui peut même s'il a une bourse pour aller étudier à l'étranger, il ne peut même pas y aller, ne peut pas comprendre. Quand lui, il n'a pas le droit de se déplacer au-delà de la barrière qui l'enferme, alors que de l'autre côté, les Israéliens peuvent parcourir le monde comme le fait. Donc là, il y a quelque chose de fondamental, il y a une revendication à l'égalité qui vient se superposer à la revendication nationale du peuple palestinien. Et rien ne sera sans la prise en compte de l'antisémitisme.
Est-ce qu'on peut parler aussi, Bertrand Elbron, d'une telle faillite des autorités palestiniennes, notamment du Fatah, dans cette montée des violences finalement, ou peut-être l'absence du Fatah, du Fatah a permis aussi cette montée de violence?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de montée de violence. Violence de l'armée israélienne contre une manifestation, en tout cas non armée, qui n'a pas une arme du côté palestinien, très largement pacifique. Bon, il y a effectivement envoyé des cerfs-volants enflammés à des fusils automatiques qui vous tirent dessus. Excusez-moi, mais bon, je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça une échange de violence. Donc, il y a une montée de revendications qui est très forte et qui est d'abord à Gaza liée à l'absence de toute perspective, à une jeunesse qui est éduquée, qui est active, qui est solidaire et qui ne voit aucune perspective. Je dirais que les partis palestiniens, je préférais que ce soit des Palestiniens qui en parlent. Je pense qu'une grande partie de la population palestinienne ne se reconnaît dans aucun parti et que le mouvement qui s'est organisé depuis le 30 mars depuis la bande de Gaza, un peu partout par les marches de retour, est très
très largement un mouvement de la société civile palestinienne. Alors, les partis se sont greffés dessus, comme le Hamas se sont greffés sur les marches de retour. Il y a un comité national des marches de retour qui réunit des représentants de la société civile et des représentants des différents partis. Voilà, donc c'est ça la réalité du mouvement qui a lieu en ce moment. Maintenant, si vous nous demandez, si vous me demandez comment la population palestinienne ressent les partis, je dirais qu'il y a une forme de discrédit, certainement. Mais c'est peut-être aussi l'obstruction de quelque chose de nouveau qui est en train de se faire.
Merci Bertrand. Pardon. On retourne un petit peu du côté du standard. Écoutez, Abdel Ouassi et Hakim Abdel du côté de Montréal. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour l'occasion de parler.
Merci de votre patience.
Là, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Chaque jour, Israël fait toujours un pas en avant pour saboter les accords des deux États. Et les États-Unis renforcent derrière Israël en tout avantage. Il faut se dire, il faut rappeler que ce n'est pas seulement une décision unilatérale de Trump, mais c'est une loi du Congrès américain qui a étudié l'histoire de l'ambassade à Jérusalem. C'est vrai que le président Obama, comme le président Bill Clinton, n'ont pas eu le courage d'aller de l'avant avec ça, mais comme on sait que Trump est un patron, il est en train de pousser le bouchon un peu trop loin. Malheureusement, la communauté internationale, on vient seulement critiquer sur le bout des lèvres pour demander des modérations sans faire des actions correctes. On a vu quand la communauté internationale s'est levée contre la Russie, et là, que ceci a été la Crimée. Mais on attend la même réaction de tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on laisse les peuples palestiniens comme ce n'est pas des vies. On les massacre au jour, chaque jour comme ça, pour pousser la question moyenne, pour saboter tous les accords. Jusqu'à quand on va faire ça? Jusqu'à quand? On ne peut pas mettre la violence quelque part et penser que ça va se finir un jour. Parce que le peuple palestinien est étouffé, retrancé totalement en arrière, et puis chaque fois on tape sur eux. Ça, c'est une injustice frappante qui laisse tout différent.
Merci beaucoup, Abdel Ouassi, de votre contribution. Abdel qui rappelait qu'il y avait une loi adoptée par le Congrès. Bertrand Herbron, je me fais l'écho des auditeurs nous envoient. Hein. D'ailleurs, tous les deux viennent de Djamena au Tchad, l'archiduc. Et Osana qui disent « Oui, mais Donald Trump n'a fait que réaliser la promesse. » Alors, Archédic dit « La promesse de 1955 ». Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs qui posent cette question-là, en tout cas qui réagissent ainsi?
Alors, je ne vois pas bien 1955, mais les deux dernières interventions, il est exact que le Congrès américain a voté le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem depuis de nombreuses années. Mais jusqu'à présent, les présidents qui se sont succédés n'ont jamais accepté de mettre cette recommandation du Congrès en œuvre. Donc, bien sûr, ce n'est pas que une responsabilité de Trump, c'est une grande partie de la classe politique des États-Unis qui soutient ce transfert d'ambassade, beaucoup pensent probablement. Je crois, y compris chez les démocrates, un certain nombre qui soutiennent. Et maintenant, il y a quand même ce qui bouge aux États-Unis, notamment dans la communauté juive des États-Unis, où il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience que cette politique est moralement scandaleuse et qu'elle ne mène à rien, et qui la refusent, hein, et notamment chez les jeunes. Avec une organisation qui monte puissance comme Jewish Voice for Peace. Et donc, il y a une opposition des États-Unis qui, j'allais dire, relève le niveau et redonne un petit peu le moral. Mais c'est vrai qu'une bonne partie de la politique sur ce sujet-là est probablement derrière.
Beaucoup d'auditeurs ont souligné l'impunité dont bénéficie l'État. Est-ce que cette impunité n'est seulement due qu'à son alliance avec les États-Unis, principalement due à cela?
Elle est liée, je pense, globalement au manque de courage. Elle est liée au manque de courage. Je crois que ça fait même des années qu'on constate l'État d'Israël s'assied sur toutes les décisions internationales et que les réactions sont quand même terriblement faibles. Et ça, c'est un très, très mauvais service qui est rendu à Israël. Alors, par rapport à ça, nous, les citoyens, on a énormément à faire. On a bien sûr à agir nous-mêmes à travers nos actions, boycott des investissements, sanctions, pour dire que nous n'acceptons pas cette punition. Mais il est vrai que pour être vraiment efficace, il faut que cette question de punition soit traitée par les États. Et elle peut être traitée de deux manières. La première, c'est des sanctions. On sait faire des sanctions, y compris l'Union européenne sait faire des sanctions. Elle a tout à fait sur ses sites pour dire comment elle fait. Elle l'a fait, un de vos auditeurs l'a rappelé, dans la question de la Crimée. Il faut arriver à pousser aux sanctions. Et puis la deuxième chose, c'est les décideurs israéliens qui décident crimes de guerre de ce niveau-là sont passibles de la justice internationale. Donc la Cour pénale internationale est dans un examen préliminaire depuis, je crois, plus de 3 ans de au moins 2 sujets qui sont Gaza et la colonisation. Il est grand temps que cette Cour pénale internationale, que la procureure décide de passer à la mise en cause précise des personnes qui sont responsables de ces crimes de guerre. Et là, il faut là aussi que les États poussent, et pour que les États poussent, il faut que les citoyens poussent. Donc, continuons à nous mobiliser en tant que citoyens. On peut aussi faire changer les choses.
Une dernière question, Bertrand Helbron, il nous reste à peine moins de 2 minutes. Convoquer une réunion d'urgence qui doit se tenir demain. L'Afrique du Sud a rappelé son ambassadeur d'Israël. Le Sénégal ordinaire proche de la Palestine ne s'est pour l'instant pas prononcé. Qui sont aujourd'hui les alliés du peuple palestinien en termes d'État?
Tous ceux qui sont en faveur du droit. On voit bien que...
Je veux dire, sur la Ligue arabe, finalement, on a vu aussi les plutôt frileux, non, cette fois-ci?
Ils sont certainement divisés. Ils sont certainement divisés. On sait que, par exemple, le soi-disant plan de paix, plus ou moins promu par le prince héritier de l'Arabie Saoudite, est une demande de capitulation totale et de renoncement total de la part des Palestiniens, quoi que ce soit de viable. Il peut y avoir du double langage. Maintenant, l'opinion des pays arabes étant quand même très massivement révulsée par ce qui se passe, pense que les États ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Donc, il faut faire la part dans ce qui va se dire entre des déclarations de pure forme qui parfois pourront être écrites et puis aussi vrai mouvement dans l'opinion et peut-être dans la position des États parce que, effectivement, ce qui se passe, un, devient en plus insupportable que d'habitude. Et deux, ça remet vraiment en cause aussi les équilibres mondiaux. Les coups de guerre sont de plus en plus importants au Proche-Orient, va se propager partout ailleurs dans le monde. Le principal fauteur de guerre, c'est Israël, par ses positions internationales, et par, avant tout, par la justice fondamentale qui fait suivre au peuple.
Merci. Merci Bertrand Helbron.
C'est le mot de la fin, c'est qu'en tant que citoyen, on a beaucoup à faire par nos propres actions, et en demandant à nos gouvernements et aux chefs d'État.
Ce sera votre mot de la fin, monsieur Bertrand Helbron.